Média francophone public.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième librairie francophone du week-end. La librairie francophone estivale, c'est tous les samedis à 9h sur toutes les radios publiques francophones et le dimanche uniquement sur France Inter. On vous propose une autre émission avec un reportage, un livre de poche pour l'été, un souvenir de l'émission, un grand entretien et un bonus créole en fin d'émission. Aujourd'hui, nous irons dans la maison Dior à Paris, dans les coulisses des ateliers avec Francis Huster. Au bord de l'océan avec Dominique A. Vous entendrez aussi Albert Uderzo dans notre séquence souvenirs, et nous serons avec le politologue Paul Ariès qui critique les véganes et qui prend la défense des mangeurs de viande. Chaque semaine, en soutien aux librairies indépendantes, nous serons aussi en ligne avec un libraire français pour son coup de cœur estival et aussi pour une anecdote de libraire. Aujourd'hui, cap sur la Bretagne, mais avant, on part tout de suite à Paris dans la Maison Dior.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Allez-y Francis, je vous en prie, on va passer par cet ascenseur. On a vraiment les portes ouvertes de la maison Dior. C'est exceptionnel de se retrouver comme ça dans ces différents lieux entre la rue de Marignan, l'avenue Montaigne. Alors vous racontez dans votre livre que vous alliez dans l'atelier de votre maman, Francis Huster, parce que vous êtes le fils d'une couturière. Ça se passait dans le quartier de la Bourse, je crois, pas très loin de la Comédie Française. Avant de faire les 400 coups avec votre copain Patrick Devers, parce que c'était votre copain d'école, eh bien vous alliez ensuite faire les devoirs.
Oui, c'est-à-dire j'allais dans son atelier de couture, qui était au 5 rue de la Banque, et je m'installais sur un haut tabouret, je m'en souviens, et il y avait cette fameuse une de ce Time,
son ascenseur.
Avec la photo sublime de Christian Dior. Enfin, c'était comme, c'est comme une peinture avec ses grands ciseaux. Et moi, je lui en voulais beaucoup à monsieur Christian Dior, monsieur Dior, comme disait maman, parce que ma mère avait les mains tordues tellement elle tenait ses énormes ciseaux, elle, les mêmes, pour faire ses... Elle faisait les patrons, comme on les appelait, là, sur des bouts de papier en marron.
Oh là 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 là.
C'est le paradis. Voilà.
Bonjour.
Bonjour,
mesdames.
Bonjour. Voilà. Alors là, et alors ça c'est incroyable parce que non seulement, et donc il y a toutes les petites mains, comme on les appelait, qui sont là. Alors il y a même des choses secrètes, on n'a pas le droit de les...
On n'a pas le droit de lire les noms des clientes qui sont sur les mannequins parce que c'est évidemment très confidentiel.
Alors on a des mannequins qui sont accrochés avec des lumières un peu partout, des tables de travail, une robe jaune qui est à côté de nous, flamboyante, toujours ce gris présent, ce noir, ce blanc, le rose aussi. C'est un peu une ruche, et c'était déjà une ruche quand Christian Dior était là, il voulait faire de cet endroit une véritable ruche.
Exactement, à l'image de la Comédie Française justement. Barrault, Jouvet, qui avaient travaillé aux Français tous les deux, parlaient toujours comme c'est d'ailleurs la devise du français, la ruche, voilà, de la ruche Dior. Et ce qui est étonnant ici, c'est cette espèce de calme de, il y a à peu près, oui, 80% d'ouvrières, il y a des hommes aussi qui travaillent, et je sais pas, il y a beaucoup, il y a une lumière, on voit les toits de Paris par la fenêtre. Et puis il y a les fameux agendas aussi, les dates à fournir.
À respecter. Alors il y a une anecdote, puisqu'on a plein de robes autour de nous là qui sont en cours de fabrication, d'assemblage, de création aussi. Il y a une anecdote incroyable dans votre livre, Francis Huster. Dans les ateliers de la Maison Dior où nous sommes actuellement, Christian Dior va créer une robe de soirée plutôt osée qui va être achetée par la rédactrice en chef du magazine Vogue aux États-Unis. Oui. Elle se dit qu'elle va faire sensation, que du coup elle va assurer une publicité magnifique pour Dior, mais ça ne se passe pas du tout comme ça.
Pas du tout, parce que quand elle va à sa soirée, on lui refuse l'entrée parce qu'on trouve la robe trop osée. Et ce qui est incroyable, c'est que une autre anecdote, c'est que Brigitte Bardot, qui allait tourner un film de Pierre Gaspard VIII, La mariée est trop belle, qui est un film formidable, une comédie ravissante, elle voulait une robe de Christian Dior. Et Christian Dior a refusé parce qu'il a trouvé que c'était trop osé.
Je voulais être architecte. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur.
Et il avait des stars absolument inouïes qui venaient ici. Il y a des souvenirs, il y a Vagarnin qui est passé, il y a Lorraine Bacall qui a beaucoup fait aussi pour Dior.
Voilà. Vous voulez parler aux petites mains, Francis?
Oh, j'ose pas.
Oui, je sens que... Ouais.
Non, mais j'ai l'impression, tout d'un coup, c'est super sympa de venir là, parce que j'ai l'impression de rajeunir de 50 ans et de retrouver... Tiens, voilà, c'était un tabouret dans ce style-là. Et il y a les mêmes ciseaux, hein, c'est absolument incroyable. Les patrons de ma maman.
Bonjour, madame.
Oh là là, combien d'heures de travail?
C'est le brodeur qui l'a fait, je ne saurais vous dire. Mais beaucoup, au moins.
Beaucoup, hein.
200, 250 heures facilement.
C'est une robe. C'est une robe. C'est pas une robe de main.
C'est le voile de mariée, c'est la coiffure, c'est ce qui va sur.
C'est la coiffure. 250 heures pour la coiffure. Mmh. C'est extraordinaire. Non, mais c'est justement, ça rejoint le théâtre. Nous aussi, ce sont des centaines d'heures de travail. Ah oui. C'est simple à la fois, c'est ça qui est beau, c'est comme le grand répertoire. Regardez les centaines de petites... Incroyable. C'est voilà, c'est du théâtre. Moi j'adore ça parce que...
Vous comparez Guitry d'ailleurs à Dior, à propos des femmes, enfin vous comparez, vous les opposez, parce que vous dites que Guitry, lui, s'attache au pire, alors que Dior aime la femme pour ce qu'elle a de meilleur.
Oui, Guitry nous fait rire des femmes, alors que Dior nous les fait aimer. Guitry se moque des femmes, alors que Dior se moque qu'on moque les femmes. Je crois que c'est peut-être parce qu'il était à part qu'il avait une vision de la femme beaucoup plus libre que celle de Guitry. Pour lui, la femme s'appartient à elle-même, alors que pour Guitry, elle appartient à l'homme. Mais chez Dior, il y a aussi de l'humour. Quand on regarde ici, rien ne pèse lourd, quoi. Rien n'est dans le trait souligné. Tout est...
Il y a une simplicité dans cet atelier, vraiment.
C'est ce qu'il y a de plus dur, d'être simple. Quand on joue du Racine, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est beaucoup plus dur Racine que de jouer des textes sculptés ou baroques. C'est ce qu'il y a de beau, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Barrault, Jouvet, Dior, c'est populaire. Et c'est pas péjoratif de dire qu'on est populaire. Au contraire, on est populaire parce qu'on a été jusqu'au bout de soi-même.
C'est ce que vous avez voulu être, vous, Francis Huster, un acteur populaire?
Oui, moi j'ai surtout voulu suivre la chaîne de Jouvet, de Barrault. Huster, mon frère, Francis, mon fils, je sais pas ce qui se passera, jusqu'où je pourrais aller, mais je servirai toujours cette morale-là.
Le théâtre, c'est votre refuge aujourd'hui, après être passé par le cinéma, des grands rôles, être passé par la télévision aussi, des moins grands rôles. Est-ce qu'aujourd'hui le théâtre, c'est votre refuge personnel?
Le théâtre...
Comme cet atelier était le refuge de Dior.
Ben, je suis très heureux que vous me posiez cette question ici, parce que j'espère emporter jusqu'au bout ces petites parcelles d'âme qui sont si nécessaires quand on fait du théâtre, ou quand on fait justement, quand on consacre sa vie à la haute couture, c'est d'avoir une haute idée justement des gens à qui on offre. Rien ne s'achète contrairement à ce qu'on pense, tout se donne. Et je crois qu'un artiste, aussi bien sur scène que dans un atelier, toutes les personnes qui sont ici sont des artistes. Il y a toujours une star dans une pièce, il y a toujours une star dans une distribution, mais il y a tous les autres.
On va terminer avec la philosophie de Dior, Francis Huster. Dior, qui a toujours été encouragé parce qu'il n'avait rien à perdre. Il n'avait pas peur des autres, il n'avait peur que de lui-même. Il savait d'ailleurs que tout peut s'arrêter, comme ça, du jour au lendemain. Vous reconnaissez-vous dans cette pensée?
Ah, j'espère m'y reconnaître, parce que je pense que la beauté de l'art, et Dior est un artiste, c'est de faire croire que tout est possible, que on n'a pas le droit de baisser les bras, il faut toujours se battre. Je pense qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent que il n'y a pas tout d'un coup des gens qui sont désignés pour être au-dessus des autres. Il y a des gens qui sont désignés pour réussir leur vie parce qu'ils osent tout. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent osent tout. Je suis pas un écrivain, je suis quelqu'un simplement qui essaye, tout à fait en dehors de mon vrai métier de comédien, d'expliquer que j'ai eu la chance d'avoir la main tendue, celle de Barrault, celle de Pierre Dux, celle de Shakespeare, de Molière. Ils m'ont tendu la main puisque j'ai leurs textes qui m'ont porté haut. Et je voudrais que d'autres personnes puissent croire qu'un jour ou l'autre, quelqu'un vous tend la main. C'est pas possible de passer une vie sans que quelqu'un vous tende la main. Ne la laissez pas passer.
Merci beaucoup Francis Huster.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Merci infiniment, c'était un grand plaisir de vous retrouver ici pour ce livre et Dior créé à la femme, paru aux éditions du Cherche Midi. À noter aussi sur Dior un très beau livre de photos réalisé ici dans la maison Dior. Magnifique. Par le photographe Gérard Uferras, que vous avez vu sans doute.
Magnifique.
Magnifique, c'est aux éditions Terre Bleue. Merci beaucoup Philippe Lemoult de nous avoir ouvert les portes comme ça de la maison Dior. C'est exceptionnel, c'est un grand honneur que vous faites à la librairie francophone. Merci beaucoup.
Écoutez, c'était un bonheur de vous recevoir.
Et Francis Huster a aussi publié un livre sur Albert Camus, Un combat pour la gloire, est sorti en juin en poche aux éditions Le Passeur. Dominique A écrit des chansons et des livres subtils, délicats. Il emmène ses fans et ses lecteurs dans des univers intimes. À l'image de cet entretien autour de son livre Regardez l'océan, paru chez Point. Et il jouera ensuite un titre acoustique dans notre studio.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Dominique A.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans Merci. Cette émission dans la librairie francophone. Vous publiez un court récit très touchant, très bien écrit, qui raconte un peu votre parcours, vos origines, vos inspirations. Vous racontez votre rapport à la ville, rapport à la campagne surtout. Vous venez d'une zone rurale et à partir du moment où vous êtes parti, vous êtes devenu un homme de la ville, un étranger en quelque sorte. Vous l'avez mal vécu ça ?
Non, pas trop en fait. Bon, à l'origine, je viens d'une très petite ville moyenne en Seine-et-Marne, Provins. Après, ce dont je parle pas mal au début du livre, ce sont surtout les périodes que je passais durant les vacances où il y avait cette présence et cette force de la campagne que je ressentais en tant qu'enfant et ce décalage entre mes petits copains de la campagne et l'image qu'ils avaient de moi d'un citadin. Et en fait, moi, je raconte que je venais d'une presque ville où on voyait finalement les champs, la même façon que l'activité le soir, c'était pas beaucoup plus palpitant que leur vie à la campagne. Donc il y avait toujours ce décalage en fait finalement d'entre deux, cette histoire d'entre deux.
Vous dites que vous êtes entre deux à chaque fois. Et d'ailleurs c'est pas du tout difficile de sortir du rang. On dit qu'il en faut peu pour sortir du rang. On se moque d'ailleurs de votre coupe de cheveux, de votre mèche rebelle.
Au tempora, au mores.
Oui. Vous avez bien changé Dominique. Hein.
Bah oui, de fait.
Donc vous aviez la mèche rebelle comme
oui,
ça.
Oui, j'avais la mèche new wave, romantique, oui. Etc. Vous voyez le résultat.
Oui, après il n'y a plus rien. Quoi.
Après il n'y a plus rien.
C'est le changement.
Des années de gel et fixation forte et plus rien.
Bon, vous racontez justement votre fascination pour la musique, la new wave en particulier. On vous a concocté une compilation de souvenirs.
C'est gentil.
Accrochez-vous, écoutez, le micro est ouvert.
Bah, Joy Division évidemment, hein, She's Lost Control.
Hein. She's Lost Control.
Taxi Girl, Cherche le garçon, c'est trop facile. Hein,
mais c'est pas un blind test.
Hein. Ah oui, c'est ça.
Echo and the Bunny Man.
Ah, mais oui. Kim Moon. Oui, Dépêche Mode.
Oui, Shake the Disease. Ouais.
C'est un blind test en fait.
Non, c'était des souvenirs simplement.
Oui, beaucoup de souvenirs. Oui.
La New Wave que vous vous évertuez à connaître parfaitement, vous parlez d'une musique de refus, dépourvue de conscience sociale, avec la mélancolie en étendard. Une musique de confinement, repliée sur elle-même, elle invite pourtant à la hauteur, j'entre en New Wave comme dans les ordres.
Ouais, c'est terrible, hein.
Bah ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est marrant. C'est un truc qui finalement m'a pas quitté, en fait. Je suis toujours aussi
Vous écoutez encore cette musique-là?
C'est aussi stupide vis-à-vis de ça. oui, ça peut m'arriver d'écouter. Bon, disons que y a, pour moi, c'est au-delà du genre musical. Ça induisait à une attitude par rapport à la vie, quoi, tout simplement. Un rapport par rapport à l'art, par rapport au romantisme, et un refus de la vie telle qu'elle semble être assez, tout simplement. Mmh. C'est très adolescent, très banal, mais ça continue à avoir un écho chez moi. Je suis toujours en phase avec ces idées-là,
oui,
en fait.
Oui. Oui, parce que dans cette musique, il y a à la fois de la mélancolie, une forme comme ça de nostalgie,
aussi,
et puis il y a
une force,
qu'il y a un relief qui nous porte, une sorte de hauteur, comme
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Tout
une musique
fait.
Aérienne.
Voilà. Oui, une élégance aussi, quelque chose qui invite, comme je vais me permettre de m'autociter, mais à la hauteur.
Oui,
et il y a tellement d'occasions dans la vie d'être rappelé à la bassesse que...
Et vous développez aussi un côté mystique avec cette scène que vous racontez dans le livre. Un jour, dans une vieille maison, vous avez 10 ans,
oui.
Vous lisez un livre dans le salon et un rayon de soleil transperce la pièce.
Oui, alors ça fait partie des épisodes qui ne sont pas strictement autobiographiques. J'en ai glissé quelques-uns, j'avais le souvenir justement pas d'une lumière qui s'est déposée un jour sur une portion de mur, mais d'un rapport à des lumières. Enfant qui me marquait et sur lesquels qui me semblait être porteuse de signes en quelque sorte. Et donc moi je venais d'une famille farouchement athée et n'ayant pas d'éducation religieuse du tout, j'avais l'impression que finalement il y avait ce qui m'attirait là-dedans, c'était ce que ça fait partie d'un interdit en fait. Donc je cherchais ça quelque part. Donc dans les lumières notamment que je pouvais voir enfant et cet épisode que je raconte est un peu inventé, mais il y a cette idée-là.
En amour, Dominique A, vous êtes très sensible à la fille qui un jour vous reproche votre conception étriquée des rapports amoureux. Il faut savoir qu'elle couche à droite à gauche alors que vous êtes avec elle. Vous répondez par l'incompréhension et la colère. Vous dites, mais non, mais on vous sent complètement désappointé parce qu'elle, elle est toute naturelle. Elle vous dit, mais tain, d'ailleurs, j'ai couché avec un autre garçon là sur le lit sur lequel tu es en ce moment.
Oui, c'est un petit épisode qui s'appelle Naissance de la colère. En fait, bon, le titre est un peu pompier, mais bon, je l'assume. La colère a été un apprentissage.
Votre personnage aussi dans ce livre, il est timide, mais il n'est pas pudique. Il se met facilement nu.
Ouais.
Et dans vos chansons, Dominique A, ce rapport au corps a souvent été présent, la sensualité de la nudité, de votre propre nudité.
Mmh.
Vous
ouais.
aimez bien vous retrouver nu, c'est votre truc, ça.
Qu'est-ce que vous voulez me faire dire?
J'ai lu le livre, c'est tout.
Non. Justement, je parle du fait que la nudité, en fait, le rapport à la nudité évolue tout bêtement avec le vieillissement, avec le corps qui évolue et que finalement la pudeur s'acquiert. Et c'est l'apprentissage de la pudeur aussi. C'est un apprentissage.
Ah, vous êtes devenu pudique, vous?
Oui.
C'est drôle.
Oui,
c'est l'inverse d'habitude.
Ben oui. D'où l'intérêt de le raconter.
Oui. Vous avez la mélancolie de votre enfance? Parce qu'on a l'impression que tous ces moments-là se raccrochent à votre adolescence, à votre enfance.
Ouais,
en fait,
ouais,
vous renvoyez
sûr.
Toujours au passé.
Bien sûr, c'est ce qui est la phrase de Bergoglio qui est en exergue, c'est l'adulte a pour, en grosso modo, hein, je cite de mémoire, s'est vu confier la tâche de en quelque sorte déchiffrer ce que l'enfant a vécu et qui n'était pas en mesure d'appréhender et de déchiffrer en temps voulu. Donc voilà, c'est l'entreprise que je me suis donnée finalement de mettre des mots sur des sentiments, sur des moments vécus sur lesquels je n'avais pas de prise. Après, ça peut sembler très anodin.
Merci beaucoup Dominique.
Merci à vous.
Merci infiniment. Regardez l'océan est paru en poche chez Point. Le voici installé dans notre studio pour un titre acoustique.
Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Éléor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Les vestes pendues au pater et l'immuable pour brévière, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert où vont les figurines pressées. De tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Eleor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi à Eleor. Ville d'abandon de bord de mer, longue semaine à négocier. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher? Quand il reste si peu de nous. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Quand délibèrent nos cellules, comme alors l'air est minuscule, même l'air. Quand de tout serait lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord. Rejoignez-moi à Eleor.
C'était Dominique A dans notre studio avec Eleor. Dominique A qui a sorti un EP 4 titres enregistré pendant le confinement. Notre séquence souvenir à présent avec Albert Uderzo, disparu le 24 mars dernier. Nous l'avions interviewé chez lui à Neuilly-sur-Seine. Un moment de radio unique et privilégié avec un homme fascinant et généreux.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bonjour Albert Uderzo.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de recevoir la librairie francophone ici chez vous, dans votre maison de Neuilly. C'est un lieu de travail aussi pour vous. On est dans votre atelier. Alors, on a des bandes dessinées un peu partout, plein de personnages issus d'Astérix. Vous pouvez nous décrire ce que l'on voit là ?
Oh, ma foi, il y a un peu de choses, parce que par rapport à tout ce que j'ai pu faire depuis plus de 60 ans maintenant. Alors, vous avez quelques couvertures d'albums, bien sûr, ça concerne principalement Astérix, j'ai pas besoin de vous le dire. Et puis, j'ai aussi quelques originaux qui me sont offerts par des confrères que j'adore et dont beaucoup, malheureusement, ne sont plus là. Vous avez derrière vous, vous avez Peyvet, vous avez Franquin, Peyot, enfin, tous les grands, y compris un grand dessinateur que j'ai connu quand j'avais 14 ans, et qui s'appelait Calvo.
Alors vous rencontrez Calvo, Albert Uderzo, un auteur incroyable, un dessinateur virtuose mort très tôt, en 1958. On dit que son trait rond et dynamique aurait influencé Walt Disney. Disney, qui, vous le confiez dans ce livre, vous a vous-même influencé. Vous êtes un peu le trait d'union entre Calvo et Disney.
Voilà, c'est beaucoup trop de... Beaucoup trop de responsabilités vous me donnez. Non, beaucoup de mes confrères, je vais vous les citer tous si vous voulez, qui l'ont d'ailleurs avoué, Franquin, Peyot, Maurice,
Robat,
tous ces gens-là ont d'abord, comme je l'ai fait moi-même, sont entrés dans un studio de dessin animé pour être aussi comme à la hauteur de Disney, sans savoir dans quelle usine ils entraient. Et nous avons compris que c'était pas tout à fait notre désir. On voyait ça d'une façon très suggestive et on rêvait, parce que le métier de dessin animé est un métier très dur, très difficile.
Il y a un concours très important qui a marqué un tournant dans votre vie, Albert Uderzo. En 1945, les éditions du Chêne organisent un concours de bande dessinée. Alors vous créez Clopinard, un vagabond qui a une jambe de bois avec un ressort, comme ça il peut se battre plus facilement. Vous créez aussi Groggy, un gros ivrogne heureux de vivre, qui ressemble d'ailleurs un peu à Obélix. Il est d'ailleurs, je trouve, moins consensuel qu'Obélix. Et vous prenez beaucoup de risques à l'époque.
Oui.
Et les éditions du Chêne vous proposent un contrat, ça marche, vous gagnez.
Oui, pas pour Groggy. Groggy n'a pas eu d'acheteur. Mais par contre, alors j'ai été étonné quand cette grande maison d'édition, d'ailleurs, c'était une très grande maison d'édition, qui voulait s'échapper un peu de la traditionnelle grande librairie qu'il faisait, pour faire de la bande dessinée. Et alors, comme ils ne connaissaient pas du tout ce métier, ils ont cru bon de faire un concours à travers une petite annonce qui est passée dans le grand journal du soir, qui était François. Et comme ça, je suis tombé curieusement sur cette annonce et je me suis amusé à faire une page de présentation avec Clopinard. Et j'ai gagné ce fameux concours qui m'a rapporté d'ailleurs une somme énorme parce que à l'époque, je ne sais pas du tout ce qui était payé traditionnellement dans ce métier, mais quand ils m'ont dit « ça va être 5000 francs », je suis revenu triomphant chez moi. Mon père, qui était beaucoup plus pragmatique que moi, m'a dit « c'est 5000 francs quoi, le tout ou la pave ?» Je n'avais pas osé le demander.
Donc vous retournez Place Vendôme, hein, parce que ça se passait Place Vendôme.
Oui, très timide comme j'étais, dans un site que je connaissais pas. C'est la première fois que j'allais Place Vendôme, en demandant... piteusement, c'est quoi, c'est la planche? Mais bien sûr, monsieur, c'est la planche. Quand je suis revenu voir mon père, là, il a commencé à croire que j'avais fait le bon choix.
Et on voit chez ces personnages, Clopinard et Groggy, des mains à quatre doigts, comme Mickey. Là aussi, il y a l'influence de Walt Disney.
Oui, c'est l'influence de Disney. Vous savez pourquoi Disney faisait quatre doigts au lieu de cinq? C'est que comme c'était des mains avec des gros doigts, des énormes doigts, il n'y avait pas de place pour le cinquième. Donc il était obligé de mettre que quatre doigts, et ça simplifiait les choses, et en même temps, les gens n'avaient pas l'impression qu'ils étaient difformes par rapport à la réalité. Quoi. Il fallait rentrer vraiment dans ce métier pour compter les doigts des personnages.
C'est vrai qu'on s'en rend compte bien plus tard.
Ouais. Bah, on s'en rend compte plus tard.
Et à partir de ce contrat...
Moi qui ai eu six doigts par main, en naissant, c'est un comble quand même.
Alors ça c'est étonnant, oui, vous naissez avec une malformation, et c'est votre maman qui voit que vous tirez sur le sixième doigt. ça fait un peu bizarre de dire ça, mais qui vous fait opérer du coup.
Qui m'a fait opérer au bout d'un mois de naissance, parce que... je tirais là-dessus. Quand je piquais des petites colères, je prenais mon sixième doigt et je tirais dessus. Ouais. Donc, pour éviter un accident, elle a dû me faire opérer.
Donc, à partir de ce contrat avec les éditions du Chêne, vous dessinez toutes sortes de personnages. Vous contactez d'ailleurs toutes les maisons d'édition qui sont susceptibles de produire de la bande dessinée. Et puis, vous tombez sur une affiche dans le métro qui fait la publicité du magazine OK. OK, c'est un magazine d'illustrés à l'époque. Vous créez un personnage médiéval, une sorte de super-héros à l'américaine, nommé Harris Buck. C'est une sorte de Flash Gordon, avec un peu de Captain America. Enfin bref, tout ça c'est à la sauce médiévale. Et il y a des personnages, on le voit d'ailleurs dans ce livre sur ces planches, des personnages contre lesquels il se bat, qui ont déjà des casques avec des ailes dessus.
Il y a surtout un petit personnage qui devient le second... De ce grand personnage du héros, qui s'appelle, je crois, Cascagnas, et qui effectivement est un petit Gaulois, petit, à la même hauteur que Castérix, qui porte un casque avec des ailes, mais c'est une coïncidence parce que quand j'ai créé le dessin d'Astérix, je n'ai plus du tout pensé à ce personnage.
Albert Uderzo, il y a une rencontre qui a marqué votre vie, bien sûr, celle avec un certain Goscinny. Alors tout se passe grâce à un agent belge qui remarque votre travail dans la presse. Il vous demande si vous voulez bien faire de la BD pour lui. Alors vous acceptez, bien sûr. Lui, il achète des bureaux sur les Champs-Élysées. Ça vous épate, c'est au 34, donc les Champs-Élysées au 34, c'est vraiment bien placé. Et du coup, vous voyez arriver un personnage, René Goscinny, qui débarque des États-Unis. Comment s'est passée votre première rencontre? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez senti qu'il y avait un concurrent ou...
Non, pas du tout. En fait, cet agent voulait absolument que j'aille travailler chez lui dans ses bureaux des Champs-Élysées, parce que ça remplissait un peu ses bureaux qui étaient vides. Moi, ça ne me plaisait pas tellement. Et un jour, il avait un autre ami qui s'appelait Georges Trois-Fontaines. Lui avait une autre agence qui s'appelait la World Press et qui avait rencontré un jour, en allant aux États-Unis, il avait rencontré Gillin, qui se baladait là-bas, avec Maurice et même Franquin. Et parmi ces trois-là, il y avait un dénommé Goscinny, et qui ne demandait qu'une chose, c'était quitter l'Amérique pour rentrer en France. Il avait quitté la France à l'âge de 2 ans, et il ne rêvait que de retourner dans son pays. Il en fait part donc à cet agent Trois-Fontaines, qui lui dit, mais écoutez, quand vous voulez, vous pouvez passer, et vous travaillerez pour moi. Et 15 jours après, il avait Gordon Goscinny qui était chez lui, ben voilà, l'autre s'y attendait plus. Mais voilà, vous m'avez dit que je pouvais venir.
Ah oui.
Alors, surprise. Bon, dit-il, alors, qu'est-ce que vous faites? Et Goscinny faisait une bande dessinée qui s'appelait Dick Dix, qui était un détective qui se baladait à pied parce qu'il ne savait pas dessiner les voitures. Et c'est curieux. Et donc, j'ai vu arriver ce jeune homme plutôt maigrichon, frisottant, très timide. C'est comme ça qu'on a commencé à discuter un peu du métier que nous voulions faire, et nous avions les mêmes idées, à savoir que lui était un garçon qui aimait l'humour, moi qui dessinais justement des personnages grotesques, et on a décidé de s'allier. Lui était plus à l'aise dans le scénario, moi plus à l'aise dans le dessin, et voilà, sans se douter qu'un jour cette osmose ferait la création que l'on connaît maintenant.
Alors, à la mort de Goscinny en 1977, une mort brutale, hein, d'un arrêt cardiaque, il avait 51 ans. Vous dites avoir été figé de longues heures, comme ça, sans pouvoir vous lever. Alors bon, il y a plein d'histoires autour de ça, mais cette histoire vous appartient. Mais...
J'étais écrasé parce que c'était tellement... C'était inimaginable. Ce garçon qui me paraissait sain, qui lui-même d'ailleurs ne savait pas qu'il avait... En fait, il avait une angine de poitrine, et quand il l'a su, il était déjà trop tard, quoi. Il a été atterré, évidemment, quand il a appris ça. Et comme tout le monde lui disait, mais vois un autre cardiologue, on sait jamais, peut-être que le premier s'est trompé. Il en a vu un deuxième, qui lui s'est trompé carrément, et qui est à cause de sa mort, parce qu'il lui a dit, pour vous rassurer, je vais vous prendre un samedi matin, et vous allez faire
un test d'effort.
Test de l'effort. Il y avait absolument aucun cardiologue pour le réanimer, il y avait aucun système de réanimation. Et c'est là, malheureusement, il a disparu. Moi, je ne l'ai pas accompagné. Je faisais un voyage, j'avais fait un voyage à Toulouse, et j'ai appris ces nouvelles en rentrant chez moi le soir. J'étais écrasé quand on m'a dit ça. J'ai été complètement hébété. Je ne savais plus du tout ce que j'allais faire le lendemain, parce que sans Goscinny, pour moi, j'étais complètement perdu, quoi. On avait quand même déjà 18 années de collaboration ensemble. Hein. C'était un frère pour moi. Et comme je l'étais pour lui, d'ailleurs, il y avait une osmose, enfin, pas la peine de parler de ça, on s'en doute bien qu'on n'a jamais eu aucun problème ensemble et on n'a jamais tiré l'un ou l'autre la couverture à soi. On était bien ensemble et on a toujours été bien ensemble. Voilà, et donc je suis resté comme ça pendant 2 ans, sans rien faire, en me disant que tout était fini. Et puis, après, j'ai réalisé que... La vie devait continuer.
Un sursaut d'orgueil, Albert Uderzo. Hein. Parce que vous le confiez difficilement, mais c'est humain, c'est naturel. C'est-à-dire, vous êtes écrasé par la mort de votre ami, mais en même temps, vous constatez que le personnage Astérix, pour les médias, ce personnage est mort. Et vous vous dites, voilà, il y a un manque cruel de reconnaissance vis-à-vis de moi, et vous créez le grand fossé. Vous dites, je vais le faire tout seul.
Oui. Et surtout par une branche des médias qui s'occupe de la bande dessinée. Pour eux, évidemment... René Goscinny était un garçon qui, d'abord, il avait la parole facile. Il aimait se projeter devant les caméras ou répondre à des intervieweurs. Moi, ça m'arrangeait parce que j'étais plutôt mal à l'aise. Je me mettais de côté et c'est lui qu'on apercevait. Mais il disait toujours, il me rappelle, il y a une émission où il dit, il faut rendre à Uderzo ce qui appartient à Uderzo.
Ouais, bon.
Et en ça, il était peiné lui-même d'avoir ce genre de choses. Mais bon, c'était un truc qui s'était fait dans l'esprit des critiques de BD, ce qui fait qu'à la mort de Goscinny, on a osé dire qu'Astérix était mort. J'ai gardé d'ailleurs toute cette presse, je veux la garder précieusement parce que, pourtant maintenant ça date de bientôt 35 ans, mais ça a été terrible pour moi. Terrible, doublement terrible, d'abord je perdais un grand ami, et deuxièmement... Je n'apparaissais plus là-dedans, donc j'avais cette considération d'être moi-même mort. Et puis, comme vous dites, j'ai eu un sursaut d'orgueil, peut-être malséant, je ne sais pas, mais j'étais complètement fou, parce qu'aujourd'hui, je n'oserais même plus faire ce que j'ai fait. J'ai décidé non seulement de faire les scénarios moi-même, mais j'ai décidé de méditer moi-même. Et puis, je suis parti sans savoir où je mettais les pieds. Et mon premier album, qui s'appelait Le Grand Fossé, curieusement d'ailleurs, je m'attendais à pire, je m'attendais, et puis ça a marché.
Alors ça a marché, la critique vous égratigne un petit peu, et n'en déplaise à certains, Albert Uderzo, c'est sans doute aujourd'hui l'un des meilleurs Astérix
que vous ayez produits. Alors, il y en a d'autres, évidemment, chacun a ses goûts, hein, comme on dit, et chacun a son astérix fétiche. Mais Le Grand Fossé est un grand album, vraiment. Et d'ailleurs, on vous dit à l'époque, oui, mais c'est sûr, Goscinny a fait le scénario avant de mourir.
Oui, alors ça, c'est la plus grande joie qu'on pouvait me faire.
Ouais, c'est ça.
Parce que moi qui craignais justement qu'il y ait une critique désastreuse, à partir du moment où il y a qu'un seul journaliste qui a osé écrire ça, et je me suis dit, si, il croit ça, alors vraiment, c'est que le scénario est bon. Bon. Et ça n'a pas été suivi des faits, parce que les autres scénarios que j'écrivais étaient mal acceptés. Alors on disait, oui, c'est bien, mais enfin, hein, ça vaut pas Goscinny. Ben, je sais bien que ça valait pas Goscinny, mais bon, il fallait le faire vivre, ce personnage.
Merci beaucoup, Albert Uderzo. Merci infiniment de nous avoir reçus ici, d'avoir reçu la librairie francophone.
Merci à vous.
Et donc, l'intégrale 1941-1951 d'Uderzo est parue aux éditions Hors Collection. On va faire une petite photo, si vous êtes d'accord.
Bonjour.
Allez, merci. À bientôt, Albert.
À bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Chaque semaine, dans cette librairie francophone de l'été, diffusée le dimanche en exclusivité sur France Inter, on part à la rencontre des libraires en soutien aux librairies indépendantes françaises. Aujourd'hui, cap sur Quiberon, en Bretagne. Bonjour Alexandre Cavalin.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie de Port-Maria. Vous avez du monde cet été, un peu plus que l'été dernier ou pas ?
Beaucoup, oui, je pense que la fréquentation est très bonne. Hein, les gens ont mis du temps à arriver parce que comme nous ne sommes pas en ville mais sur le littoral, avec la contrainte des 100 km, les gens sont venus tardivement. Mais les gens sont là, sont au rendez-vous.
Bon, c'est très bien. Quel livre conseillez-vous alors à ces personnes qui viennent vous voir pour cette période estivale dans votre librairie ? Quel livre avez-vous envie de vendre d'abord ?
Mon coup de cœur, je l'attribue donc à Cécile Guidot. Pour son livre « Les volontés », qui fait suite aux actes parus donc en livre de poche. Cécile Guidot est notaire, et elle nous ouvre les portes d'une grosse étude parisienne, et nous offre une plongée saisissante dans le monde du notariat. Ce qui m'a plu, c'est la plongée dans le monde du notariat. C'est le notaire, on y va tous. Mais derrière, effectivement, cet univers un petit peu feutré, que se passe-t-il ? Et voilà, là, Cécile Guidot, et par l'intermédiaire de Claire, donc son héroïne, nous ouvre les portes toutes grandes d'une grosse étude parisienne.
Effectivement, comme vous l'avez dit, Alexandre, on y va tous un jour ou l'autre, heureusement ou malheureusement, hein, ça dépend ce qu'on y fait. On vous a demandé aussi de réfléchir à une histoire personnelle de libraire, Alexandre Cavalin, une anecdote drôle ou émouvante qui vous a marqué au cours de votre carrière. Que voulez-vous nous transmettre ?
Eh bien, pour un libraire, notre plaisir est de voir grandir les auteurs. Et très souvent, donc, on a reçu donc un auteur pour un premier roman, pour une première dédicace, et les retrouver quelques temps après pour un deuxième ouvrage, une deuxième dédicace, et de voir les gens rentrer donc à la librairie et se servir sur les piles de nouveautés pour ces auteurs, c'est franchement un très grand plaisir. Ça, c'est un grand bonheur, c'est le bonheur du libraire. J'ai un jour un petit client qui est venu un soir et pour le remercier donc de nos conseils, est venu avec sa guitare et nous a joué donc un morceau de guitare, très gentiment. Et maintenant, quand je revois ce client, donc bien des années après, je pense qu'il a troqué sa guitare classique pour une guitare électrique. Et le voir venir donc avec femme, enfant et la nouvelle génération de lecteurs, ça, c'est extrêmement plaisant.
Merci beaucoup Alexandre Cavalin. Je rappelle que vous êtes libraire dans la librairie Port-Maria à Quiberon, librairie indépendante bien sûr. Achetez vos livres chez un libraire indépendant, c'est le même prix en France et c'est essentiel pour la diversité culturelle et la liberté. À bientôt Alexandre, bon été à Quiberon.
Merci Emmanuel.
À bientôt. À suivre un entretien animé sur les véganes et les mangeurs de viande avec Paul Ariès. Un moment qui va vous faire réagir raisonnablement, je l'espère, autour de ce sujet sensible. Ce sera après Terre Noire qui interprète « Mon âme sera vraiment belle pour toi ». Bon été à tous avec la librairie francophone sur France Inter.
C'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. J'ai jamais su bien lire les astres du futur, alors je te dis ces choses, ce monde dont je suis sûr. Mon amour, tes coups d'éclat, tes quelques coups de clé ont pu me desserrer, enfin libérer le cœur. Être au cœur avec ce que je ressens, avec ce que tu es, j'suis tout le temps intéressé par les choses que tu me fais. Genre, divers et envers. que celui de Léo au-dessus de moi. Je vois bien, c'est l'amour, en tout cas ça y ressemble. Est-ce que l'intimité te fait flipper plus que moi? Est-ce que la magie du monde te remplit plus que moi? Est-ce qu'on sera team divorce ou pas? Est-ce qu'on se donnera de la force ou quoi? Est-ce qu'il faudra souffrir pour se tomber dans les bras? Est-ce qu'il faudra retenir nos kamehameha? Et faire encore une fois l'été à l'endroit. Mon âme sera vraiment belle pour toi. Mon amour est un infini de pourquoi. Je vois des soleils voler au-dessus de moi. Je vois bien, c'est l'amour. En tout cas, ça y ressemble.
C'était Terre Noire avec Mon âme sera vraiment belle pour toi dans la librairie francophone.
France Inter, la librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Paul Ariès est dans votre librairie cette semaine pour un livre qui dénonce le véganisme avec ce titre à rallonge, Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, paru chez Larousse. Paul Ariès, pourquoi, comme vous l'écrivez en sous-titre sur la couverture de votre livre, les végans ont-ils tout faux?
Bah, les végans, c'est 4 à 5...
Ah, vous dites végan, vous, déjà.
Oui, je francise.
Ah, pardon, d'accord.
C'est 4 à 5% aujourd'hui, effectivement, de la population, oui. Mais presque 100% de notre imaginaire alimentaire. Montrer qu'effectivement, les végans ont tout faux. C'est-à-dire que l'élevage n'est pas responsable de la faim dans le monde, l'élevage n'est pas responsable de la dégradation du climat, ni de la crise sur l'eau potable.
Ouais, vous écrivez, les végans, donc, ont non seulement tout faux par rapport à leurs belles déclarations généreuses, mais ils sont bien les idiots utiles du capitalisme productiviste.
Mais oui, parce que si vous voulez supprimer l'élevage, donc le fumier animal, la seule solution pour pouvoir remplacer le fumier, c'est d'utiliser toujours plus d'engrais chimiques, toujours plus de produits phytosanitaires, c'est-à-dire tout ce qui détruit la terre, tout ce qui détruit l'humus.
La fausse viande est plus rentable, c'est ce que vous expliquez. Et vous dites qu'il y a des entreprises, des multinationales qui sont soutenues par les rois du capitalisme, comme Bill Gates par exemple, qui soutiennent justement la fausse viande et la viande végétale parce que il y a un business derrière.
Bah, y a un accord qui a été conclu entre le lobby de la viande et le lobby des céréales autour effectivement d'un consortium qui pèse 2,2 billions, je dis bien 2,2 billions de milliards, pour tout simplement supprimer la vraie viande, le vrai fromage, et imposer ces fausses viandes réalisées à partir de cellules souches.
Ouais.
C'est-à-dire que, globalement, la conception qui était celle de l'alimentation depuis quelques millions d'années, il faudrait tout simplement faire table rase.
Et c'est plus rentable. C'est le produit rêvé, parce que pour le stocker, pour le stabiliser, comme on dit, donc pour le conserver, ça permet plus de facilité.
Alors c'est beaucoup plus rentable parce qu'on voit très bien que ce système productiviste, l'élevage industriel, le taux de perte c'est de 18 à 40%. La maladie de la vache folle, c'est été plus de 1000 milliards de dollars. Donc on a essayé d'imposer la viande clonée, ça n'a pas marché, heureusement, et on veut développer aujourd'hui ce système des fausses viandes.
Alors vous les traitez de nazillons quand même, les végans, vous allez très loin.
Ah non,
hein.
C'est eux qui traitent effectivement les mangeurs de viande.
Vous dites les végans sont des nazillons, il y a beaucoup de nazillons qui se sont reconvertis vers le véganisme, et vous les insultez un petit peu.
Ce que je montre, c'est que le végétarisme a été une idéologie bonne à tout faire. dans l'histoire.
C'est-à-dire ?
A pu porter, effectivement, le meilleur, l'encyclopédie Diderot. On disait, on va devenir, effectivement, végétarien, parce que si on s'habitue à tuer des animaux, on pourra plus facilement tuer des humains. Malheureusement, cette illusion, on sait qu'elle est folle. Fausse. Mais dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité, je dirais que les puissants ont toujours voulu empêcher au peuple de manger de la viande.
Comme et à la fin du 19e, par exemple, vous citez les frères Kellogg's.
C'est effectivement ce mixte entre un courant religieux, Kellogg's, et puis la grande industrie.
Kellogg, les frères, donc, qui ont créé les céréales, on connaît la marque aujourd'hui.
Et qui ont reformaté notre façon de manger.
Exactement, et qui militaient, justement, tous les deux, pour arrêter de manger de la viande. Ils allaient même plus loin en disant qu'il fallait limiter les rapports sexuels à un seul rapport par mois. Alors, vous expliquez, Paul Ariès, dans ce livre, plein de choses, notamment que la Terre, dans la Terre, il y a plein d'insectes. Environ 80%, je crois, de la population animale se retrouve dans la Terre. Et si on va vers le végétarisme, si on évite de manger des animaux, mais qu'on consomme encore plus de végétaux, il y a un danger pour ces animaux-là. Donc, les végans et les végétariens sont aussi des assassins.
Bah, on sait très bien que l'agriculture tue 25 fois plus d'animaux que l'élevage. Mais ce ne sont pas les mêmes. Tout jardinier sait très bien qu'il faut éliminer les limaces pour pouvoir manger des laitues, qu'il faut éliminer les doryphores pour pouvoir manger des pommes de terre. Mais il n'y a pas que ça. Les végans conséquents reconnaissent que la prédation humaine, c'est-à-dire l'alimentation carnée, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'histoire de la prédation. Oui, oui. Et donc ce qu'ils proposent, c'est tout simplement de supprimer tous les prédateurs. C'est-à-dire en modifiant génétiquement les espèces animales ou en les éradiquant. Eh bien moi, si je suis anti-végan, c'est bien effectivement parce que je veux défendre cette biodiversité animale, et c'est bien parce que je considère qu'il va falloir non pas se prendre pour des dieux tout-puissants, vouloir reformater le monde, mais établir des relations nouvelles avec les animaux.
Que dites-vous à ceux qui sont écœurés par la viande ? Il y a plein de jeunes aujourd'hui, des adolescents même, qui décident de ne plus manger de viande par écœurement. Parce que ce qu'ils voient à la télévision, quand ils voient la maltraitance animale notamment, quand ils voient toutes les crises sanitaires, ça les dégoûte et ils arrêtent de manger de la viande. Qu'est-ce que vous leur dites à ces végans ou à ces végétariens-là ?
Mais les végétariens ou les végétaliens qui le font par choix philosophique et religieux, je dirais libre à eux, et tant mieux.
Là, c'est pas religieux, c'est pas philosophique.
Non, non, mais même par dégoût.
C'est un rejet. Oui.
Ce qui, à mes yeux, est contestable, c'est l'idéologie antispéciste qui considère qu'il faudrait éradiquer totalement l'élevage. Et puis, je vais plus loin. Cette idéologie antispéciste, elle a son gourou, Peter Singer,
oui, qui est
considéré
fou,
comme le philosophe le plus efficace de notre temps. Et qu'est-ce que nous dit Peter Singer ?
Des choses
Il
incroyables.
Nous dit qu'un jeune chiot valide serait plus digne d'intérêt qu'un grand handicapé, qu'un jeune nourrisson ou qu'un vieillard sénile. Eh bien moi, si je suis anti-végan, c'est avant tout pour défendre l'unité du genre humain.
Paul Ariès, vous expliquez que l'alternative, vous développez cela dans la dernière partie du livre, l'alternative est du côté d'une agriculture paysanne. Il faut retourner à l'agriculture paysanne et il ne faut pas oublier que la terre a besoin des animaux.
Bien sûr.
Pour pouvoir survivre.
Et je crois qu'il y a un mouvement qui est en train de se développer, qui est tout simplement pour développer des abattoirs sur place. Avec un slogan qui est qu'il faut que les animaux naissent, grandissent et meurent sur place. Et moi, j'appelle effectivement les défenseurs des animaux à rejoindre cette initiative qui est devenue légale en France depuis le mois de mai dernier, mais qui existe déjà dans plus d'une vingtaine de pays.
Merci beaucoup, Paul Ariès. Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser est paru chez Larousse. Merci, Paul.
Merci.
Vous avez été très clair.
Bahia, je ne te connais pas. Peut-être mieux comme ça. comme ça.
C'était Cléa Vincent avec Baya dans la librairie francophone. Et on termine cette émission avec le bonus créole, avec l'auteure algérienne Kaouter Hadimi qui a choisi de lire Frantz Fanon. Pourquoi Frantz Fanon, Kaouter ?
Eh bien, j'ai repensé à un extrait des Damnés de la Terre qui, je trouve, résonne beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, avec les petits de décembre aussi. Voilà, bon, donc j'avais envie de le partager avec les auditeurs.
On va écouter votre lecture sur une musique antillaise. Voici Kaouter Hadimi qui lit un extrait des Damnés de la Terre, texte publié quelques jours avant la mort de Frantz Fanon.
On parle beaucoup depuis quelque temps de l'autocritique. Mais sait-on que c'est d'abord une institution africaine ? Que ce soit dans les djemas d'Afrique du Nord ou dans les réunions d'Afrique occidentale, la tradition veut que les conflits qui éclatent dans un village soient débattus en public. Autocritique en commun, bien sûr, avec cependant une note d'humour, parce que tout le monde est détendu, parce que nous voulons tous en dernier ressort les mêmes choses. Le calcul, les silences insolites, les arrière-pensées, l'esprit souterrain, le secret... Tout cela, l'intellectuel l'abandonne au fur et à mesure de sa plongée dans le peuple. Est-il vrai qu'on peut dire alors que la communauté triomphe déjà à ce niveau, qu'elle sécrète sa propre lumière, sa propre raison ?
Merci beaucoup, Kaouter Hadimi.
Merci.
La 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 la. Là, mon cher. Par où tu nous as? Ah, une belle boule, hein? Ça fait un petit piano, tout le monde.
C'était le bonus créole de Kaouter Hadimi avec la musique de Jenny Alpha. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation et la production, Cyril Pascal et Victor Porin avec la contribution de Jean-Philippe Verret et Antoine Teboul à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. On se retrouve samedi à 9h pour la librairie francophone estivale avec Régis Geoffrey, Philippe Gueluc, Diane Tell, Daniel Pénac et un reportage à La Réunion. Dimanche prochain, dans cette librairie francophone de l'été, vous entendrez Philippe Drouillet, Samuel Benchetrit, Albert Jacquard, ou encore Juliette Binoche qui rencontre Christian Bobin. Je vous retrouve dans quelques minutes pour Interclasse à Marseille avec les élèves du lycée Saint-Exupéry. Restez avec nous sur France Inter.